Pierre-Yves Meugens, de 6h à 9h sur la première.
Place donc à l'acteur en direct de Matin Première, Arnaud Reussen. Vous recevez ce matin l'économiste Geir Noels.
Oui, fondateur d'Econopolis. On va essayer d'y voir un peu clair sur la situation économique et ce n'est pas forcément simple. Prenons d'abord l'actualité. Geir Noels, bonjour.
Bonjour.
On a suivi que la Chine a encore dévalué le yuan ce matin. C'est le troisième jour de suite. Les deux premières vagues de dépréciation avaient déjà été très mal digérées par les marchés financiers, notamment les Européens qui ont tous fini largement dans le rouge hier. On verra la réaction aujourd'hui à cette nouvelle dévaluation. On a envie de vous demander, est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce que c'est le signe d'une nouvelle crise ou d'un nouvel épisode de cette crise de 2008 dont on n'est pas encore sorti, loin de là?
Mais d'abord, ça ne peut pas être une surprise parce qu'il faut regarder d'où la devise chinoise vient. Et après une telle appréciation des dernières années, les petits pas que l'on a vus ces derniers jours ne sont que le début de quelque chose.
Ça veut dire que la monnaie chinoise est trop forte aujourd'hui par rapport à la situation économique réelle de la Chine?
Absolument. Les chiffres des exportations étaient très, très mauvais. On parle d'une baisse de 12% et plus par rapport à il y a un an. Alors c'est catastrophique pour un pays où les exportations sont très importantes pour la croissance du PIB. Et ça vient en plus d'autres problèmes en Chine, comme la bulle spéculative des actions, comme les problèmes dans l'immobilier. Alors pour les Chinois, c'est vraiment très très important de regagner de la compétitivité, de gagner des parts de marché. Et comme les autres pays dans la région, le Japon, la Corée, ont joué sur la devise pour gagner des parts de marché, il n'y avait, à mes yeux, pas de surprise que les Chinois allaient réagir sur la devise.
On entre dans une sorte de guerre des monnaies. L'idée, c'est évidemment que si on a une monnaie trop forte, ça pénalise les exportations. Et donc là, la Chine est en train de faire baisser sa monnaie pour se redonner un avantage au niveau de ses exportations. Ça veut dire que c'est peut-être pas fini, qu'elle va sans doute continuer encore ce qu'elle est en train de faire ici au niveau de la dévaluation.
Ça va continuer. Et on est dans une guerre des devises. N'oublions pas que les Européens ont joué la même carte. Qu'avec la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, on a essayé aussi de déprécier notre devise, l'euro, pour donner de l'oxygène aux pays dans le sud, mais aussi aux pays exportateurs comme l'Allemagne, et pour, relancer la machine de croissance. Alors tous les pays ont joué cette même carte, et maintenant c'est de nouveau au tour de la Chine, pour, à son tour, dévaluer la devise. Et les quelques pourcents qu'ils ont réalisés maintenant, c'est le début de quelque chose, c'est pas la fin.
Et donc, c'est aussi avec des conséquences pour les autres. Si la Chine, elle, essaye de baisser sa monnaie pour se redonner un avantage compétitif, on imagine que ça peut faire réagir les autres, qui vont eux-mêmes vouloir rester compétitifs, peut-être aussi dévaluer leur propre monnaie. On est parti pour un cercle vicieux.
Oui, c'est un cercle vicieux, c'est un zero-sum game. Une devise, c'est par rapport à quelque chose, par rapport à une autre devise. Alors, si une devise perd, c'est par rapport à une autre devise qui, à son tour, voudrait devenir plus faible. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde où tous les pays veulent avoir une devise faible. C'est évidemment impossible. Le dollar américain s'est apprécié. C'est la devise la plus forte depuis quelques années. Mais avant, les Américains faisaient la même chose. Ils voulaient une devise plus faible parce qu'ils avaient tous les avantages d'une devise de réserve. Et puis, en supplément, une devise faible pour les exportations. C'était bienvenu pour l'économie américaine.
Alors j'en reviens à ma question de départ. Est-ce que c'est un nouveau tour dans la crise quand on voit que l'on doit faire cela, ce jeu à somme nulle que vous venez de nous décrire, où tout le monde veut être plus bas que les autres pour favoriser ses exportations? Est-ce que c'est le signe qu'il y a vraiment un problème dans le moteur économique mondial aujourd'hui?
Oui, je crois que dire que c'est une crise, c'est faux. C'est un problème de notre modèle de croissance depuis 7-8 ans. Un modèle qui était basé sur, la création des dettes, mais également sur un espoir de croissance qui était surestimé. On vivait dans l'espoir d'atteindre des taux de croissance en Europe de 2%, 3% aux États-Unis et 10% en Chine. C'est intenable. La Chine dit encore de réaliser des taux de croissance de 7%, mais en réalité, quand on voit les chiffres de la croissance réelle, ce qui est difficile dans un pays où tout est manipulé, aussi les chiffres statistiques, il faut estimer la croissance aujourd'hui entre 0 et 5%, voire négatif au niveau de certains sous-indicateurs comme les exportations. Alors, pour la Chine, c'est une vraie crise, la première dans la jeune histoire de la remontée de la Chine depuis 2001. Et comme la Chine est tellement importante pour certains aspects de l'économie, on le ressent partout. N'oublions pas non
c'est
plus
que... C'est pour ça que ça plonge aujourd'hui, en fait. C'est parce que tout le monde est en train de découvrir que le moteur économique chinois qui avait finalement soutenu l'économie depuis 2008, il avait bien résisté, la Chine, comme une série d'autres pays émergents, que ce moteur-là est en train de caler, et c'est ça qui inquiète tout le monde.
Oui, la Chine nous a aidés en 2008 aussi pour sortir de la crise économique à cette époque-là. La croissance restait bien soutenue en Chine, et maintenant qu'il y a un refroidissement de l'économie chinoise, tout d'un coup, on se réalise à quel point c'est important. On le voit au niveau des matières premières, on le voit au niveau des exportations de certaines sociétés, de certains pays. Et alors, bon, comme il n'y a pas d'autres moteurs très puissants pour l'économie mondiale, on sent à quel point cette économie est fragilisée depuis quelques années.
Mais alors, on sort de cela comment, Geert Noels? Parce que quand on vous entend ce matin, on a l'impression qu'on ne va jamais revenir à ces taux de croissance que l'on espérait. Or, on sait que nos économies sont basées sur ce modèle de la croissance, et y compris d'ailleurs le financement des retraites, par exemple. Tout ça est basé sur un modèle qui prévoit une croissance relativement importante. On en sort comment, alors, de cette crise, de ce changement de modèle que vous nous décrivez aujourd'hui?
Il faut d'abord accepter que des taux de croissance de 2% en Europe ou 3% aux États-Unis ne sont pas tenables, ne sont pas durables.
Alors, on n'en verra plus, jamais, ou peut-être, mais ce
peut-être,
sera épisodique.
Mais, allez, regardez les vents favorables qu'on a aujourd'hui, des taux bas, un euro qui est faible, des prix de pétrole qui sont très bas, et puis on atteint un taux de croissance en Belgique de 1%, 1,5%, et on dit, bon, c'est bien, mais avec des vents favorables d'une telle ampleur, dans les années 90 ou 80, on aurait eu 3-4% de croissance économique. Alors, avec tous les éléments favorables aujourd'hui, on atteint à peine 1% de croissance. Alors, déjà, c'est réalisé que ces rythmes de croissance ne sont pas durables, qu'il faut changer les espoirs, les promesses, les budgets. Comme vous dites, le vieillissement, le coût de vieillissement tablé sur des taux de croissance de 2%, ce sont des budgets intenables, farfelus.
Et alors, on fait quoi, Geert Noels?
Changer les budgets, changer, disons, les promesses et bon, vivre dans la réalité, pas dans des espoirs dans des espoirs farfelus.
Et est-ce que les politiques européens, aujourd'hui, belges en particulier, perçoivent suffisamment ce que vous nous décrivez ici, c'est-à-dire qu'on est en train pratiquement de changer de modèle économique par rapport à ce qu'on a connu jusqu'ici?
Tout doucement. Je crois que tout doucement, on le réalise, mais pas assez. Même aux États-Unis, on vit encore dans l'espoir de 3%. Alors, on a commencé l'année de nouveau avec des prévisions de 3% de croissance aux États-Unis. Maintenant, on les a revisées vers le 2% après un premier trimestre qui était même en négatif. Alors, même aux États-Unis, avec une économie qui tourne assez bien aujourd'hui, 2% est la nouvelle réalité. Mais il y a l'endettement qui est très élevé, il y a des coûts de vieillissement, etc. Alors, tout cela table sur une croissance beaucoup plus élevée, mais qui est intenable, qui n'est pas faisable. Alors, changer des modèles pareils sur le long terme, c'est très, très difficile. Disons, des promesses ont été faites, les retirer, changer, on le voit chez nous, pour les pensions, pour les salaires, pour la compétitivité. Ce sont de mauvaises nouvelles. Pour passer cela à la population, c'est apparemment très difficile.
Enjeu évidemment très important. Autre enjeu du moment et à plus court terme au niveau européen, c'est ce qui se passe autour de la Grèce. Ce sera aussi l'actualité des prochaines heures avec un Eurogroupe important qui est prévu demain. On a entendu début de cette semaine que les Grecs ont annoncé qu'il y avait plus ou moins un accord technique avec l'idée de débloquer 86 milliards pour l'économie grecque dans ce nouveau plan d'aide. On a aussi entendu ces dernières heures Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des finances, dire ça ne marchera pas. Ceux qui connaissent vraiment les fondamentaux de l'économie grecque savent tous que ça ne peut pas marcher. Votre avis à vous, Geert Noels, est-ce qu'on est en train de tourner la page de la crise grecque au niveau européen, ou bien est-ce que justement ce problème il risque encore de ressurgir?
Je crois qu'avec le plan qui a été proposé il y a quelques semaines au mois de juillet, on ne va pas sauver la Grèce. On a gagné du temps, mais on reste on reste avec un problème de l'économie grecque qui ne va pas être résolu avec ce plan-là. Et puis, il y a des conflits qu'on essaye de mettre en dessous du tapis. D'abord, la réduction de la dette. Le FMI veut une réduction de la dette grecque, alors que les pays européens disent accord sans réduction de la dette. Alors là, il y a déjà un conflit. Et puis, il y a plein de choses dans le soi-disant accord que nous avons reçu ces derniers jours qui doivent être résolus. La santé des banques grecques, la conditionnalité. Qu'est-ce que l'on fait si les Grecs ne tiennent pas les promesses? Et puis, bon, l'effort proposé est de 85 milliards d'euros. Mais avec, disons, les problèmes de l'économie grecque, aujourd'hui, il y a déjà des rumeurs que l'effort à faire est de 125 milliards d'euros. Alors,
il faudrait 125 milliards d'euros, oui, vraiment, pour pouvoir espérer que ça repart. Donc quand vous nous dites soi-disant accord, vous avez dit ça, hein, c'est un soi-disant accord. Pour vous, ce n'est pas du tout tranché et les négociations qui vont se profiler pour les prochaines heures risquent d'être encore très compliquées.
Ah, mais on veut un accord, alors on va présenter un accord, mais dans quelques mois, on va se réaliser qu'avec 85 milliards, qui table d'ailleurs sur, disons, 50 milliards de privatisation, où personne ne sait comment récolter tout cela, on va se réaliser demain que ce n'est pas un très bon accord, ou bien au mois d'octobre, on est de nouveau là pour dire que la Grèce est en crise.
Donc on est loin d'avoir tourné la page de la crise grecque, selon vous, en un mot?
Je ne crois pas qu'on a vu la dernière page de cette crise grecque.
Eh bien, merci Gertnoul d'avoir été avec nous ce matin.
Et on vous retrouve tout à l'heure à 8h40 pour répondre aux questions des auditeurs. Merci Arnaud, 7h53 sur la première.